soir, le suspense reste entier au sujet de l'application par les sociétés aériennes des nouveaux tarifs revus à la baisse des billets d'avion pour les vols domestiques en République démocratique du Congo. En effet, le gouvernement avait officialisé samedi dernier les nouveaux tarifs des billets d'avion dans les proportions dépassant les 40% pour les destinations les plus demandées. Certaines compagnies aériennes ont accepté ces nouveaux prix, d'autres les boudent, expliquant qu'elles pourraient notamment avoir des difficultés à faire face à la sécurité des passagers en cherchant à baisser les coûts à l'extrême, notamment au sujet du coût de la maintenance. Une application éventuelle pourrait intervenir peut-être ce week-end. Autre évolution à suivre ce soir, c'est celle du coronavirus en République démocratique du Congo. La province du Haut-Katanga connaît depuis mi-juillet une flambée de coronavirus, a indiqué la semaine dernière le ministre provincial de la Santé. Joseph Sambi évoque un tableau dramatique, des hôpitaux bondés de malades et de plus en plus sous assistance respiratoire, l'oxygène qui devient difficile à trouver et des décès de plus en plus nombreux. Une situation presque similaire dans certaines provinces de la RDC comme le Nord Kivu, le Lualaba et le Kasaï central. Mais dans le même temps, le ministre de la Santé du gouvernement central signale, lui, une baisse sensible de cas de coronavirus à Kinshasa. Et pour évoquer toutes ces actualités, nous serons ce soir avec Dou Jésus Belédou, journaliste promoteur du média en ligne libertéactu.com. Dou Jésus Belédou, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba et merci de l'invitation.
Mais aussi Jean-Romance Mokolo, bonsoir.
Oui, bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous les co-débatteurs et je salue en tout cas de nombreux auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Jean-Romance Mokolo, vous êtes journaliste politique à la télévision CCTV émettant à Kinshasa. Et enfin, Van Frédéric Chilanda, journaliste correspondant du journal La Prospérité à Kananga, province du Kasaï central. Van Frédéric Chilanda, bonsoir.
Bonsoir cher Donat, bonsoir à tous les confrères ainsi qu'aux auditeurs de Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine. Dou Jésus Belédou, journaliste promoteur du média en ligne libertéactu.com. À ce stade de notre émission, quelle actualité non encore évoquée jusqu'ici souhaitez-vous partager avec nous?
Une fois de plus, bonjour à vous, bonsoir. Bonjour, bonsoir également aux auditeurs de la radio onusienne, Radio Capi. Dona Madimba, je m'intéresse à la question de la ville de Kinshasa. Nous avons hier suivi une déclaration du caucus des députés nationaux de Kinshasa, où ils ont tablé sur la mauvaise gouvernance de la capitale par l'exécutif provincial. Et ben, moi, personnellement, ça m'a interpellé, mais je crois que au-delà du fait qu'on peut faire des interpellations, il faudrait voir la réalité des choses. La réalité des choses nous pousse à dire de manière honnête qu'une ville comme Kinshasa, qui reçoit à peine une rétrocession de 10 millions de dollars de la part de la présidence de la République, avec une population qui avoisine 10 millions d'habitants aujourd'hui, c'est pratiquement insuffisant que la ville de Kinshasa ne puisse résoudre tout le problème, pas seulement en ce qui concerne la salubrité ou l'hygiène, mais aussi la sécurité qui pose problème. Déjà, lorsqu'on vous parle des indicateurs, on vous dit au niveau des chiffres que pour assainir Kinshasa de manière journalière, il faut un montant faramineux de 270 000 dollars par jour. Ceci permet de déployer à travers la République non seulement les engins, mais aussi les personnels pour l'assainissement. Lorsqu'on prend une ville comme Brazzaville, une petite ville, mais dont le gouvernement central fait une rétrocession mensuelle de 6 500 000 dollars, je crois qu'il y a à redire sur les efforts qui sont en train d'être faits. Je ne suis pas ici en train de prendre parti ou la défense de Ngobila. D'ailleurs, j'ai été très critique, je suis très critique d'ailleurs vis-à-vis de sa gestion, mais je pense également, c'est vrai, que les élus nationaux peuvent faire des déclarations, mais à ce stade des choses, il faudrait dire que les responsabilités sont partagées. Autant que le gouvernement central en est pour beaucoup, s'agissant par exemple des frais alloués à la ville de Kinshasa, autant que le responsable de la ville de Kinshasa doivent également s'organiser.
Merci.
Vous savez, par exemple, à ces jours, lorsqu'on évacue régulièrement des déchets dans les routes de Kinshasa, lorsque vous vous promenez dans la ville, je termine par là, vous voyez que la ville est éclairée. Il y a différents chantiers qui sont en train d'être lancés sur fonds propres de la ville de Kinshasa. Je parle de chantiers routiers, bien évidemment. Ce sont des efforts qu'on devrait reconnaître. Alors, plutôt que de se lancer dans un populisme, les députés nationaux devraient se pencher sur les questions des rétrocessions, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi d'autres provinces. Cela permettrait à ce que les provinces puissent s'autosuffire afin de résorber non seulement les problèmes d'hygiène, mais aussi les problèmes qui concernent la sécurité. Vous vous souviendrez également que Ngobila, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il a trouvé au niveau des banques, un prêt de près de 62 millions de dollars que la ville avait pris sous Kimbuta. On n'en parle pas aujourd'hui.
Merci.
Ce sont là des pesanteurs auxquels non seulement le gouvernement central, mais l'IGF devrait s'y pencher pour savoir
d'où Jésus.
Si la ville est asphyxiée, pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre la main sur le vrai problème plutôt que de faire des déclarations populistes.
Merci d'où Jésus Belédou. Jean-Romance Mokolo, journaliste politique à la télévision CCTV, mettant depuis Kinshasa, votre avant-goût informationnel.
Oui, moi en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est l'annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, qu'il allait inscrire au prochain Conseil des ministres la problématique de la réduction du train de vie du gouvernement. Je crois que c'est un débat qui date en tout cas de très très longtemps, où l'on parle, où l'on évoque la réduction du train de vie des institutions en général, mais cela n'a jamais été fait. Je ne sais pas, bon, il estime dans ses communiqués que, voilà, le budget national sert pratiquement à payer les salaires, à faire fonctionner les institutions, mais qu'il n'y a pas en tout cas assez d'argent pour investir dans d'autres projets d'ordre social et autres. Je crois que c'est une initiative pertinente, mais est-ce que si on réduisait par exemple les salaires des ministres, on réduisait le frais de fonctionnement des ministères, on va dégager quel montant pour financer quel projet? C'est ça en tout cas la problématique qui se pose, c'est la question que moi je me pose. Je me dis, bon, on pourrait réduire, mais ça ne risque pas de mettre aussi en difficulté les ministères pour fonctionner comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous contactez certains ministères, vous vous rendez compte que les gens ont vraiment des difficultés pour fonctionner et qu'il y en a même qui dépendent, par exemple, des bailleurs de fonds pour poser des actes pour fonctionner dans leur ministère. Donc, c'est ça la première question que je me pose. Mais je dis, mais la solution ne réside pas seulement à réduire les salaires des ministres ou le frais de fonctionnement des ministères. Il faut peut-être, le premier acte à faire, c'est des connivences avec les chefs de l'État et surtout avec la famille politique Union Sacrée, de commencer d'abord par réduire la taille du gouvernement. Donc si, par exemple, on a un gouvernement de peu de membres, je crois que on aura aussi peu des membres des cabinets politiques. Mm-hmm. C'est ce qui pose problème aussi dans les fonctionnements. Donc, on Merci. A trop de ministères, on doit maintenant le peu qu'on a là, il faut redistribuer Merci. À tous ces ministères-là qu'on a créés, qu'on a saucissonnés des ministères. Par exemple, on peut avoir un ministère d'agriculture et développement rural, comme ça a été le cas sous le maréchal. Certains ministères qu'on a scindés là, on peut les réfusionner pour faire en sorte qu'on ait une équipe réduite, par exemple, tout au plus 35 membres du gouvernement. C'est ça, je crois, c'est ce qui va permettre de réduire les trains de vie du gouvernement. Et quant aux institutions, je crois qu'in fine, il faut qu'on pousse une réflexion. Voir quelles sont les institutions dont notre pays, en tout cas, a besoin pour fonctionner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions budgétivores. Je vois, par exemple, les conseils économiques et sociaux. Ça sert à quoi dans ces pays? Tous ces beaux mondes-là qui travaillent, qui fonctionnent dans ces services-là de l'État, ils font quoi comme travail? Est-ce qu'ils sont indispensables? Et pourquoi, par exemple, pousser la réflexion très loin? Je me suis posé la question de savoir, mais quand, par exemple, on a décidé de scinder la Cour suprême de justice en plusieurs institutions, est-ce qu'on a pensé aussi à l'impact budgétaire de cette décision-là? qui a été prévu dans la Constitution.
Merci pour
par exemple.
Merci pour vos réflexions, Jean-Romain.
Bon, voilà, donc grosso modo, je veux dire ceci.
Oui.
Oui, une chose est de chercher à réduire les salaires et les frais de fonctionnement des ministères. Mmh. Autre chose, c'est faire en sorte qu'on pousse la réflexion trop loin, réduire aussi les institutions de l'État.
Travailler de manière globale.
Sont très nombreuses et on a doublé, multiplié par autant le nombre des gens qui émargent au budget de l'État. C'est ça aussi le grand problème que nous avons.
Merci Jean-Romain Mokolo. Van Frédéric Chilanda, journaliste correspondant au journal La Prospérité à Kananga Province du Kasaï Central. Votre commentaire libre.
Merci beaucoup cher Donat. Je salue tous les auditeurs qui sont branchés à Radio Capi. En tout cas, moi, je suis intéressé d'entrée de jeu par cette question. Il y a effectivement cet anniversaire macabre depuis la mort de Jean-Prince Mpondi, alias Kamouinan Sapou, il y a 5 ans, il faut le rappeler, depuis le 12 août 2016, aujourd'hui 12 août 2021, ça fait 5 ans que le chef Kamouinan Sapou a été abattu. À la suite de sa mort, il y a eu, bien entendu, une folie meurtrière dans laquelle la province a été entraînée, et puis toute la région du Kasaï. Et aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que 5 ans, dois-je le rappeler, il y a un procès qui a commencé il y a 4 ans depuis 2017. Un procès depuis que les experts des Nations Unies ont été effectivement tués dans cette folie meurtrière. Il y a 2 procès. Un procès kilométrique qui s'est poursuivi à Kananga, organisé par la Cour militaire de l'ex-province du Kasaï central. Mais jusqu'ici, on s'inquiète tout de même de ce fait que le procès est toujours tiré en longueur, alors que parmi les attributs, bien entendu, de la justice, les gens s'attendent à la célérité de l'action de la justice pour qu'effectivement on sache qui a fait quoi, qu'on établisse les responsabilités. En dehors, bien entendu, de cette question, il y a des questions de réinsertion, il y a des questions d'indemnisation des victimes et des questions de réparation qui ont été à l'époque soulevées, parce qu'il faut aussi rappeler que une organisation qui a été menée par le pouvoir passant, le pouvoir passé bien entendu de Kabila, un forum qui était organisé à Kananga où toutes ces questions ont été soulevées. Lorsqu'on constate qu'il n'y a pas réinsertion aujourd'hui, il y a indemnisation de victimes, il n'y a pas réparation, on s'est dit, on a l'impression d'être toujours à la case du départ en train de faire du surplace, alors que les gens ont besoin effectivement de rencontrer ces solutions et ces problèmes de la société, avoir des solutions pour effectivement penser des plaies, parce qu'il faut ici dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu le leur.
Merci.
Dans cette folie meurtrière, et il n'y a vraiment aucun projet, aucune ambition du gouvernement national, bien entendu, de rencontrer ces préoccupations, parce qu'ici, donc là, je voudrais ici rappeler que le risque du rebondissement est très grand, parce que ce sont des questions qui se posent. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont été abusés dans leur chair, notamment les femmes. Il y a des jeunes gens qui ont eu des promesses du gouvernement central. Et il y a des questions de réinsertion, comme je le disais tout à l'heure, d'indemnisation des victimes et des réparations. Et là, c'est une priorité pour le gouvernement, mais on a l'impression que la priorité est ailleurs, qu'à ces questions fondamentales.
Merci Van Frédéric Chilanda. Rentrons maintenant dans les vifs de nos échanges de ce soir. Dossier des tarifs de billets d'avion pour les vols domestiques que le gouvernement recommande aux compagnies aériennes de la RDC de baisser. C'est peut-être ce week-end que les nouveaux prix pourraient être opérationnels comme exige le gouvernement. En effet, le gouvernement avait officialisé samedi les nouveaux tarifs des billets d'avion dans les proportions dépassant les 40% pour les destinations les plus demandées. Certaines compagnies aériennes ont accepté ces nouveaux tarifs. D'autres les boudent, expliquant qu'elles pourraient notamment avoir des difficultés à faire face à la sécurité des passagers en cherchant à baisser les coûts à l'extrême, notamment le coût de la maintenance. Évolution de ce dossier avec Paul Matendo.
La baisse du prix des billets de vol domestique annoncée par le gouvernement est très attendue par les voyageurs. Selon un chef d'agence d'une compagnie de la place, plusieurs clients se bousculent au portillon avec les prix de nouveaux tarifs. C'est d'ailleurs le cas d'un voyageur rencontré sur place qui s'est dit surpris de la non-application de cette mesure.
Je suis surpris parce que hier à la télé on nous a dit qu'il y a baisse. Mais ma grande surprise, les billets toujours à 280 dollars. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pensais qu'on commençait déjà à appliquer cela. Voilà pourquoi je suis venu.
Une autre compagnie a pris tout simplement la décision de suspendre les vols jusqu'à l'harmonisation des tarifs dans le système. C'est ce que nous a expliqué le chef d'une des agences de cette compagnie qui a requis l'anonymat.
Jusque-là, on n'est pas en mesure de vendre. On a bloqué les vols. Ça signifie qu'on ne peut pas vendre un billet jusque-là. On ne peut pas faire un billet. Donc, si un passager, on lui renvoie peut-être la semaine prochaine qu'il repasse lundi.
Le délai accordé aux compagnies d'aviation par le gouvernement expire le vendredi.
D'où Jésus Belédou, journaliste promoteur du média en ligne libertéactu.com. Nous sommes là dans un feuilleton qui a déjà connu quelques rebondissements. Le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines son intention de voir les prix de produits de première nécessité baisser. Pour le moment, un document officiel n'est pas encore brandi et les prix ont pris de l'ascenseur. Et nous voici maintenant avec le tarif actualisé par le gouvernement, revu à la baisse, hein, des billets d'avion qui, d'une partie, est boudé par certaines compagnies aériennes et accepté par d'autres. Selon vous, sommes-nous en train d'aller directement vers la situation connue par les produits de première nécessité qui ont flambé, ou avec ce cas-ci des billets d'avion, il y aura respect des nouveaux tarifs?
Merci beaucoup, Dona Madimba. Je crois que il faudrait rappeler ici un chapelet de réduction des différentes taxes, mais également autorisations que le gouvernement a fait vis-à-vis des opérateurs de compagnies aériennes. Je rappelle ici la réduction de la taxe d'autorisation, par exemple, d'importation d'un avion qui est passée de 70 dollars américains à 70 000 dollars américains, je voulais dire, à 10 000 dollars américains. Voyez-vous, c'est déjà un élément important à souligner. L'exemption des droits des douanes à l'importation, par exemple, et l'exportation des pièces de rechange et autres consommables des avions, il y a eu une réduction pour les importations, notamment. La mise en place d'un mécanisme allégé de dédouanement des pièces de rechange, ça, ce sont des choses à mettre à l'actif de la réduction de ce coût de billet d'avion. Mais il y a aussi la réduction de la redevance sur le parking. Voyez-vous, c'est passé de 250 dollars qui était à Angeli contre 30 dollars et 50 dollars. Et donc, ce sont des éléments. Il y a aussi un élément que j'ai failli oublier, c'est la réduction des taxes RVA, notamment l'extraction de la redevance de sûreté et sécurité de la RVA du prix du billet. Et tout ceci, ajouté à cela la réduction, le gouvernement a décidé de la réduction du taux des taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, de 16% à 8% sur les tarifs de transport aérien. Et donc, ce sont des éléments, tous ces chapelets de réduction que je viens de citer, ce sont des éléments qui, normalement, devraient concourir à la réduction du coût des billets d'avion. Mais j'ai suivi également les doléances des opérateurs aériens qui disaient que c'est pratiquement impossible. Il faudrait aussi voir leurs revendications, essayer aussi de les tamiser.
De Jésus Belédou, allons-y très clairement pour nos auditeurs. Vous pensez que, avec toutes ces réflexions, tous ces éléments pris en compte, vous pensez que le gouvernement a fait du saupoudrage en proposant des prix revus à la baisse, ou après réflexion de tous ces éléments, le gouvernement a bel et bien raison de brandir les tarifs tels que les proposés
en ce moment? Après la réduction de tous ces éléments que j'ai évoqués, le gouvernement a bel et bien raison d'évoquer ce genre de tarifs pour faciliter justement les déplacements. Même l'argument selon lequel pour quitter un taxi, je l'ai lu quelque part, une dame qui disait
un taxi du centre-ville à l'aéroport coûte 65 dollars,
etc. Pour 30
kilomètres. Comment
voulez-vous qu'un coût d'avion, un billet d'avion soit à 50 ou à 100 dollars ou à 90? Mais je crois que c'est une réflexion biaisée, dans la mesure où des gens l'ont prouvé. La problématique des transports aériens, même en dessous de précieux, c'est des kilomètres, des 1000 ou 2000 kilomètres qui s'est fait à un coût réduit. On a évoqué des cas, les gens dans le pays un peu développé. Le problème avec le Congo, c'est lequel? Le problème, c'est que on n'a pas assez... La seule voie pour arriver dans le Congo profond, ça demeure l'avion. On ne peut pas se déplacer facilement à travers la route, moins encore avec la voie maritime. Par exemple, moi, de Jésus, si je vais aller chez moi à Bouta, par exemple, mais la seule voie pour aller à Bouta, c'est de prendre un avion. Si vous êtes à Kisangani, pour arriver jusque chez moi, la route est pratiquement délabrée, voyez-vous. Il faudrait
emprunter
l'avion. Et c'est ce qui fait un peu le luxe de l'avion.
Voilà. Mais donc, est-ce que vous pensez que avec les intérêts que les uns et les autres défendent, pensez-vous que les compagnies aériennes vont finir par mettre en pratique et dans les délais fixés par le gouvernement ou avec quelques jours de retard.
Il y a un moratoire jusqu'au 15, je crois.
Oui.
Il y a un moratoire jusqu'au 15 pour que les compagnies se conforment par rapport à la tarification.
Vont-elles le faire? Vont-elles le faire selon vous?
S'il vous plaît, je vais terminer, pardon, s'il vous plaît.
Allez-y.
Je crois qu'il faudrait harmoniser. Autant que si aujourd'hui il y a un blocage constaté au niveau des prix des denrées alimentaires, on risque de vivre le même scénario. Alors, pour ne pas vivre le même scénario, il faut créer un cadre, une fois de plus, de concertation où il y aura une option qui sera levée. D'ailleurs, il y a certaines compagnies qui disent avoir réduit les billets d'avion, mais dans la pratique, lorsque vous voulez vous déplacer, on vous dit, non, monsieur, vous payez les prix initiales et non la nomenclature fixée par le gouvernement. Et ça, c'est un problème sérieux. Moi, je plaide en faveur d'une concertation à nouveau entre le gouvernement et les opérateurs économiques.
Merci.
Je vais chuter, s'il vous plaît, c'est important.
Allez-y, très brièvement, quelques secondes, allez-y.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'économie, les pouvoirs économiques prédominent toujours sur le pouvoir politique, pas seulement au Congo, mais à travers le monde, parce que c'est l'économie qui définit même la politique et les bien-être du social, et les sociales des peuples. Mais les cas de la RDC, puisque on a évoqué ici les denrées alimentaires, mais la SEC, nous avons une économie qui est tenue par les expatriés. Même ceux qui siègent au niveau de la FEC, qui ont le pouvoir, la puissance économique, mais c'est les groupes Raoji, c'est les groupes Kiel, ce n'est pas les Congolais.
Merci.
Et donc, par rapport à leurs intérêts, ne vous attendez pas à ce que ces gens-là courbent les Chines facilement. Ils vont mettre un bras de fer si leurs intérêts sont menacés.
Merci.
Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on constate que les prix
des poulets,
plutôt que d'être réduits à 10 dollars, on enchaîne toujours au-delà des prix de 10 dollars.
Merci.
Donc, voyez un peu, il faut que l'État commence par assainir, donner une puissance économique aux Congolais, investir au niveau interne, cela permettra à ce que, finalement, on maîtrise l'économie de la RDC.
Merci, Dou Jésus Belédou. Jean Romance Moko, le journaliste politique à la télévision CCTV, m'étant depuis Kinshasa, un peu la même question. Hein. Pensez-vous que, après réflexion cette fois-ci, les entrepreneurs ou opérateurs économiques qui résistent à revoir les prix à la baisse vont le faire cette fois-ci pour les billets d'avion où nous sommes partis un peu pour le même blocage qu'avec les prix des denrées de première nécessité?
Oui, je voudrais d'abord rappeler Bona Madimba que les prix pour les transports aériens pratiqués dans notre pays en tout cas est trop élevé. Vous allez vous rendre compte, par exemple, pour certaines destinations, aller-retour, c'est plus que même s'il faut aller à l'extérieur du pays, quoi. Quand vous allez dans d'autres pays, les prix des transports aériens entre les villes, en tout cas, c'est minime par rapport à ce que nous pratiquons
ici. Alors, vous pensez que le gouvernement,
très rapidement,
oui, vous pensez que le gouvernement, en imposant cette réduction de prix, le fait de manière rationnelle, avec bonne foi?
Oui, le gouvernement, je crois que est bien fondé de pouvoir amener cette réduction-là, parce que je me rappelle que avant l'arrivée de la FDEL, quand vous quittez Kinshasa et Mbandaka, c'était plus ou moins 100 dollars. Autant d'années après,
pour le même pays,
on a multiplié par autant les prix du billet d'avion. Ça, c'est un rappel historique. Mais quant à maintenant ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité qu'avant qu'on signe en pompe cet arrêté ministériel fixant la nouvelle nomenclature dans les transports aériens, on aurait dû d'abord se mettre d'accord, totalement d'accord avec les opérateurs économiques.
Jean Romance, vous ne pensez pas que le gouvernement a fait sa part? Ne pensez-vous pas que le gouvernement a eu à se mettre sur la même table que les opérateurs économiques et discuter un peu, et que finalement, peut-être, le gouvernement a eu l'impression qu'il y avait mauvaise foi du côté des opérateurs économiques? On peut l'imaginer, hein, les gens qui veulent gagner montant d'argent qu'ils gagnent.
Il fallait d'abord vider le point de divergence avant d'arriver à publier une nomenclature à l'intention du public.
D'accord.
Ça fait des ordres pour la deuxième fois. La première fois, vous l'avez rappelé, concernant les opérateurs économiques et importateurs des produits vivriers, des surgelés. On a publié une nomenclature qu'on n'arrive pas à appliquer jusqu'à maintenant. Au contraire, sur le marché, on assiste à une flambée des prix. Donc, on aurait dû d'abord vider tout le point de divergence. Mmh. Ça pouvait prendre le temps que ça pouvait prendre, mais arriver à un modus vivendi avant de pouvoir publier cet arrêté-là.
Est-il possible?
Le gouvernement a voulu en tout cas jouer au populisme, quoi. Mmh. Mais
est-il possible, selon vous,
par la réalité?
Est-il possible, selon vous, que le moment est peut-être venu pour le gouvernement de passer au bâton, à manière forte, peut-être retirer la licence à gauche et à droite à certains récalcitrants?
Bon, s'il est vrai, par exemple, que sur terrain, les prix imposés par le gouvernement ne vont pas permettre à certains opérateurs économiques de pouvoir se retrouver, quoi, sur le plan commercial, bon, même si vous leur imposez la mise en application, bon, il y en a qui accepteront, par exemple, de pouvoir clouer leurs avions au sol ou aller peut-être voir ailleurs, mais ça aura comme conséquence que les gens auront des difficultés, en tout cas, pour voyager. Mais je crois que avant de pouvoir arriver à tout ça, pour faire face aux opérateurs privés, il fallait d'abord que le gouvernement renforce la flotte de Congo Airways. À une certaine époque dans ces pays, nous avions l'opérateur aérien national, Air Zaïre à l'époque, qui en tout cas avait la capacité de pouvoir transporter la population partout à travers la République. Nous n'avions que quelques privés comme Cibé, Air Lift et puis peut-être d'autres compagnies. Mmh. Voilà. Mais nous avions l'opérateur national qui vraiment avait pion sur rue. Donc tant que Congo Airways n'aura pas une grande flotte, tant qu'au niveau de l'offre, par exemple, la demande sera toujours grande, donc on va toujours assister à ce genre de difficultés.
Merci Jean-Romain Somokolo. Van-Frédéric Chilanda, journaliste correspondant du journal La Prospérité à Kananga, province du Kasaï central. Pensez-vous que ce problème de fixation... selon le souhait du gouvernement, hein, des prix des billets d'avion devra trouver sa solution par, comme venait de le dire Jean-Romain Somokolo, le renforcement ou l'acquisition d'une capacité gouvernementale à œuvrer efficacement dans ce secteur.
D'accord, merci beaucoup cher confrère, mais je crois que il faut qu'on s'actualise. Hein. Lorsque vous allez sur le site internet des Congo Airways, par exemple, où la grille tarifaire a été revue, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a certains opérateurs économiques dans ce secteur qui comprennent la mesure de la situation. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement prenne une décision avant même que une entente ne soit trouvée entre le partenaire en face. Mais je crois, selon la sincérité, bien entendu, de sources du ministère de l'économie nationale, avant d'arriver à cette annonce, il y a bien entendu plusieurs réunions qui ont été tenues avec plusieurs opérateurs économiques du secteur, et puis un modus vivendi a été trouvé selon les revendications des opérateurs économiques.
Et comment comprendre alors régulièrement ce volte-face en public des opérateurs?
Ce ne sont que des annonces, parce que pour le moment, là, moi, je viens de me connecter sur le site internet des Congo Airways, les prix ont été sensiblement réduits.
Mais ça, c'est ce qui est écrit, Frédéric. Ça, c'est ce qui est écrit. Avez-vous le témoignage de personnes qui ont réellement payé les billets et qui ont voyagé avec les billets revus à la baisse?
Bon, en fait, le témoignage, je l'ai pas encore vécu. Ben, en fait, le problème, c'est que comme journaliste, il faut qu'on descende sur terrain pour qu'on se rassure. Mais déjà, par le fait que c'est officiellement écrit sur le site internet, je me dis que Congo Airways, ne serait-ce que pour ne citer que
cet exemple-là,
cette agence, a dit bien entendu souscrire dans la même logique. Mais dois-je ici rappeler tout de même, c'est pas quand même une mauvaise décision. C'est parmi les grandes décisions sur lesquelles on attend le gouvernement national de la RDC. Le pays a d'énormes difficultés. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a un confrère qui est intervenu bien avant, qui a stigmatisé le fait que les prix très élevés pour la rotation des avions, c'est ne serait-ce qu'en RDC, pour ne parler que notre pays. Pourtant, partout ailleurs, ce n'est plus un luxe. Chez nous, c'est un luxe. Aujourd'hui, lorsque vous regardez sur le site des Congo Airways, on vous dit par exemple, un billet de Kananga Mbujima, c'est $40 à la place des plus de $100 qu'on dépensait. Kananga Kinshasa, c'est $113. C'est affiché, vous pouvez voir, à la place de 250. Et Kananga Lubumbashi, pour ne citer que cette contrée, c'est $195 américains. C'est quand même plus important. Alors, si on veut faire une analyse sérieuse, Vous comprendrez que si on a la bonne foi, si les opérateurs économiques, parce qu'il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs réunions qui ont précédé cette annonce publique du gouvernement provincial, je ne voudrais pas ici que je m'inscrive dans la logique du confrère qui pense que c'était pratiquement du populisme. On est très habitué dans ces pays, bien entendu, de faire ce genre d'analyse, mais l'intention est très bonne. Ça rencontre bien entendu les desiderata du petit peuple que nous sommes. Alors, le plus important, c'est bien sûr de se poser la question si, effectivement, le gouvernement national va respecter ses engagements pris. Mmh. Mais si déjà, selon les opérateurs que j'avais suivis, à la suite de la dernière réunion au ministère de l'économie nationale, une réunion qui avait été présidée par M. Jean-Marie Kalumba, qui est le ministre de ce secteur, en tout cas, les opérateurs économiques étaient très favorables parce que leurs desiderata étaient rencontrés. Donc, si à ce niveau, les opérateurs économiques sont de bonne foi, c'est que ça peut permettre à ceux qui opèrent dans ces secteurs puissent aller aujourd'hui à Lubumbashi, nous ramener les Makayabwa dans la région centre du Kasaï, du pays qui est pratiquement enclavé. Nous sommes complètement enclavés, mais si déjà les opérateurs économiques sont de bonne foi, merci, et le gouvernement national est de bonne foi également, on peut arriver ne serait-ce qu'à maintenir d'abord ça sera une très grande action de ce gouvernement dit de Warrior.
Merci Van Frédéric Chilanda. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas toutes nos langues de la RDC que le Makayabu dont vous faisiez allusion ici, c'est du poisson séché salé, et espérons que le moratoire accordé par le gouvernement trouvera à son terme application des nouveaux tarifs des billets d'avion. Entrons dans le deuxième sujet de nos débats de ce soir. Une autre évolution que nous évoquons ce soir, c'est celle de la gestion du coronavirus en République démocratique du Congo. La province du Haut-Katanga connaît depuis mi-juillet une flambée de cas de cette pandémie, a indiqué la semaine dernière le ministre provincial de la Santé. Joseph Sambi évoque un tableau dramatique, des hôpitaux bondés de malades et de plus en plus sous assistance respiratoire, l'oxygène qui devient difficile à trouver et des décès de plus en plus nombreux. Une situation presque similaire dans certaines provinces de la RDC comme le Nord Kivu, le Lualaba et le Kasaï central, mais dans le même temps, le ministre de la Santé du gouvernement central signale, lui, une baisse sensible de cas de coronavirus dans la capitale. Quelle stratégie le gouvernement compte-t-il appliquer face à cette évolution malicieuse du coronavirus en RDC? Explication du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani.
Depuis la fin du mois de juin, début juillet, en troisième semaine, en quatrième semaine épidémiologique de l'année, nous avons vu une baisse sensible des cas Covid sur toutes les tranches du territoire, mais surtout au niveau de Kinshasa, qui était l'épicentre. Au départ, à 71,5% des cas Covid sur le territoire, puis maintenant diminué autour de 60%, 65% des cas Covid sur toute l'étendue du territoire. Mais conséquemment, à la baisse au niveau de la capitale, nous avons vu une hausse au niveau des quelques provinces. Le Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord Kivu, le Sud Kivu et d'autres d'ailleurs. Ça retient notre attention, mais les spécialistes de la riposte avec qui nous échangeons régulièrement nous préviennent également que c'est la tendance depuis la première vague, la deuxième vague et la troisième vague que nous prenons ce qu'on appelle les deux semaines épidémiologiques qui suivent la baisse à Kinshasa pour évaluer au niveau des provinces. Et régulièrement, quand ça baisse au niveau de la capitale, ça monte dans les provinces. Mais nous devons suivre cela de près parce que nous nous attendons également à une baisse au niveau des provinces.
D'où Jésus Belédou, journaliste, promoteur du média en ligne libertéactu.com. Que pensez-vous déjà de l'analyse du gouvernement? Vous venez d'entendre le ministre de la Santé. Que pensez-vous à ce stade de l'analyse du gouvernement de cette évolution malicieuse du coronavirus en RDC, des cas qui flambent ailleurs et qui baissent ailleurs? Et pensez-vous que le gouvernement pourra trouver les bonnes stratégies pour égaliser les choses?
D'abord, je crois qu'il y a ambiguïté au niveau de la communication du ministre. Lorsque on sait que Kinshasa, c'est pratiquement la porte d'entrée de la République démocratique du Congo, avec l'aéroport international d'Ngili, mais aussi l'épicentre de l'économie nationale, il y a beaucoup d'entrées et des sorties à Kinshasa. Et lorsqu'on nous dit que à Kinshasa, la maladie ou les cas de contamination sont réduits. Et c'est contrairement en province où on constate plus de cas de contamination. Je me pose la question, est-ce que vraiment il y a de logique dans tout ça? Ça, c'est le premier élément. Quand on sait qu'en province, rarement, c'est vrai que rarement, il y a ceux qui se déplacent, mais aussi les provinces ont subi les confinements partiels que nous subissons à Kinshasa, autant que le couvre-feu. Ça, ce sont des éléments qui ne rassurent pas. Mais déjà, du premier, de la première vague, deuxième, comme la troisième vague, aujourd'hui, il y a un flou total, cher ami, sur le pic. Tantôt, on nous dit vous avez atteint les pics. Tantôt, on vous dit on vient de dépasser les pics. On ne nous dit pas clairement, effectivement, quand et comment les choses se font. Et les Congolais, lorsque vous prenez votre micro, baladez à Kinshasa ou dans la province, on vous dira qu'il y a... On ne sait pas si effectivement la maladie existe, tellement que les autorités, et même traitent avec beaucoup de légèreté cette histoire des coronavirus.
Je m'intéresse beaucoup plus. Allez-y.
Doit-on continuer à vivre dans ces conditions où les terrasses sont fermées, les bars sont fermés, ça représente une puissance économique à Kinshasa notamment. Les boîtes de nuit sont fermées, mais les églises continuent de fonctionner. Mais les meetings politiques continuent à se tenir.
Du Jésus Bénédou, du Jésus, ouais, donc, restons toute proportion gardée. S'il y a quelques rassemblements à gauche et à droite, ça doit être des débordements, des cas isolés. Oui, mais est-ce que la mesure, est-ce que la maladie aurait-elle été mieux gérée avec toutes ces activités-là opérationnelles?
Voilà, moi je crois maintenant que la maladie est gérée avec beaucoup de légèreté. Il faille aujourd'hui, puisque les cas sont sensiblement réduits à Kinshasa, l'intérêt aujourd'hui est de lever la mesure de confinement partiel, notamment la fermeture des terrasses, des bars, etc. Mm-hmm. Parce que Kinshasa est asphyxié, okay. Je vous l'ai dit. Deuxième élément, il faudrait par rapport au couvre-feu, il faudrait décaler les heures de couvre-feu parce que il y a une catégorie de Congolais qui travaillent la nuit. Et comme en Europe, comme partout ailleurs.
Merci.
Et qui sont asphyxiés et qui ne savent pas comment exister. Puisque les cas sont sensiblement réduits, déconfinons Kinshasa, mais renforçons plutôt les mesures barrières ou les décisions dans ce sens-là en province, et pour que progressivement, on ne subisse pas le même cas.
Merci du Jésus Bélédou. Jean Romans Mokolo, journaliste politique à la télévision CCTV, m'étant depuis Kinshasa. Trouvez-vous l'évolution du coronavirus en RDC rationnelle? Kinshasa, des taux qui baissent, en province, des taux qui flambent. Probablement en province, parce que beaucoup de provinces ont eu du retard à appliquer la même rigueur qu'à Kinshasa ou pas.
Bon, il faut reconnaître, par exemple, que le ministre n'est pas chargé de la santé, n'est pas chargé directement de la gestion de la riposte. Il y a un secrétariat technique qui est dirigé par le docteur Mouyembe et que toutes les données que le ministre avance dans les médias ou dans sa communication, je crois que ça provient de ceux qui travaillent sur terrain. Et il faut quand même relever que, oui, il y a une certaine cacophonie au sommet de l'État qui ne facilite pas aussi la communication du ministère de la Santé et même du comité secrétariat technique. Parce que quand on est au sommet de l'État, on doute même de l'efficacité, on ne fait pas confiance, par exemple, au vaccin qui était utilisé chez nous ici. Bon, ça a eu comme impact quoi? Les gens se sont méfiés du vaccin avec les fake news, avec la désinformation, ce qui fait qu'on a préféré, par exemple, prendre ces vaccins-là, aller envoyer ça ailleurs, là où les gens en avaient besoin. Et que chez nous, ici, aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de vaccins. J'ai appris, par exemple, hier sur Radio Capi, le ministre provincial, je crois, du Katanga, qui se plaignait que les gens étaient à la recherche, par exemple, du vaccin, maintenant, qu'il y a une flambée, et qu'ils n'arrivent pas à avoir ces vaccins-là. Donc, au-delà, par exemple, de la responsabilité des autorités de l'État, il y a la responsabilité du Congolais lui-même, donc de la population. Nous devons savoir que la question de santé, c'est d'abord une question individuelle. Les gens ne veulent pas croire que la maladie existe. Vous circulez à Kinshasa, les gestes barrières sont ignorés. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Congolais pour lui imposer le respect des mesures barrières. on fait un peu de pédagogie, malheureusement, les gens se fient aux réseaux sociaux, les gens se fient à la manipulation, à tout ce qui se passe comme information. Donald Madimba, il nous arrive, nous autres là, comme journalistes et comme citoyens, de monter dans les transports, de monter dans des taxibus, dans des bus. Mais vous allez vous rendre compte que le cash n'est là, n'est porté peut-être que 0,5% des passagers. Même chez les transporteurs officiels Transco, les gens rentrent avec des cachinets, mais ne les mettent pas. Et il y en a qui causent, qui crient, et pourtant on sait très bien que la maladie se contamine par
des gouttelettes
qui sortent quand quelqu'un parle, quand quelqu'un crie.
Tout à fait.
Donc il y a aussi la négligence et aussi l'incurie de la population qui ne facilite pas la tâche aux autorités. C'est la raison pour laquelle je donne même raison aux autorités du Haut-Katanga, par exemple, qui avaient décidé qu'on puisse, par exemple, des amendes fortes et même des emprisonnements à ceux qui enfreignent les lois.
Merci Jean-Romance Mokolo. Van Frédéric Tchilanda, journaliste correspondant du journal La Prospérité à Katanga province du Kassai central. Êtes-vous d'avis que maintenant que la maladie évolue à la baisse à Kinshasa, on doit décélérer un peu certaines mesures, notamment des mesures qui sanctionnent les activités économiques?
Cher Donat, je voudrais ici dire que la situation est allée de mal en pis et les statistiques au niveau du Kassai central sont tout simplement dramatiques. Et là, cela dénote bien entendu de la légèreté, ça c'est vraiment le cas de le dire, des autorités qui sont en place et bien entendu du comité local des ripostes. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un gouvernement responsable, national ou provincial soit-il, qui pouvait bien entendu prendre la mesure de la situation pour contrer l'évolution de la maladie, on arrive aujourd'hui à 150 cas au niveau de la région. Il y a 9 morts, dont 6 le week-end dernier. Ça, c'est de l'information que vous devez noter. Donc, le Kassai central aujourd'hui vit dans une situation d'insécurité sanitaire essentielle. Et on sent simplement de l'agitation au niveau de ceux qui ont la responsabilité, bien entendu, d'aider la population à éviter la contamination à grande échelle. Je voudrais ici dire que le Kassai central vit depuis la nuit des temps dans une insécurité qui ne dit pas son nom. C'est vrai qu'on n'a pas assez de ressources au niveau de la région. Je voudrais ici les rappeler bien avant, depuis plus d'une décennie, aucun investissement sérieux avec tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'a pu être amené au niveau de la région pour réduire ne serait-ce que la misère du peuple. Nous n'avons pas de courant ici. Au niveau de l'hôpital provincial, par exemple, vous n'avez que des concentrateurs de bonbonnes. Et c'est difficile, bien entendu, de contrer.
Alors, avec tout ce tableau difficile, comment, de manière générale, et nous sommes en train de boucler cette émission, que doit en principe être fait pour efficacement lutter contre le coronavirus en RDC? Un peu de mots.
Je crois qu'il y avait, il y a une ressource importante sur laquelle le gouvernement provincial devait s'appuyer, c'est la communication. Je fais partie de ceux qui ont rencontré les autorités, bien entendu, pour leur proposer cette dimension. On sent que lors de la première vague, il y a eu quand même une très grande mobilisation. Bien entendu, les gens se sont quand même appropriés le respect des gestes barrières. Lors de la deuxième vague, il y a eu relâchement. Le gouvernement provincial qui pouvait par exemple s'appuyer sur la dimension de la communication, notamment en repensant aujourd'hui la stratégie des ripostes et en se faisant bien sûr une priorité axée sur la sensibilisation des masses, une communication efficace n'a pas pu le faire. On a constaté tout simplement de la légèreté. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement provincial mobilise par exemple 45 véhicules pour aller sensibiliser dans un territoire, alors qu'on sait que la communication interpersonnelle n'est pas du tout efficace par rapport à l'ampleur de la maladie. Donc nous avons proposé au gouvernement provincial aujourd'hui d'investir des moyens conséquents, des moyens qui sont là disponibles vers les mass médias. Il faut bien entendu des sensibilisations intensifiées à travers les médias, au moins au niveau de Kananga, tout le monde a accès à l'information à la radio.
Merci.
Quelqu'un peut se proposer un poste récepteur pour suivre de l'information. Qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Il y a les tests Covid, les frais de tests Covid. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, peut-être pour terminer, Donat, si vous me permettez, il y en a cher, un partenaire important au niveau de la province qui a réhabilité tout un pavillon. Mais ce pavillon, par rapport aux défis d'énergie, n'abrite pas les malades de Covid-19, c'est des saupoudrages. On a dépensé plus de 100 000 dollars qui auraient pu être concentrés vers la communication à travers les masses médias. Et là, ça n'a pas été pris en compte.
Merci.
Aujourd'hui, on est dans une insécurité sanitaire déplorable.
Merci Van Frédéric Chilanda pour votre participation, mais aussi à Jean Romance Mokolo et à Dou Jésus Belédou pour ce numéro. Dieudonné Nyangasawa Nyangasa et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse est finie pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.